c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et Langélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé dans une poignée de minutes. On va recevoir Michael Mittelstadt. Il sera bien sûr au cœur des intrigues de l'été. Greg Delobel dans Ici tout commence. Il nous dira tout sur son personnage et sur ses souvenirs de tournage, notamment sur la série Ici tout commence que vous suivez du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Spécial retrouvailles, plus belle la vie. Demain soir, prime exceptionnel sur France 3 avec le retour d'anciens personnages, Dunia Cossins et Anaka qui joue Amandine Turpin. Eh bien, seront de retour et seront nos invités pour évoquer justement ce prime événement. Amis d'enfance, c'est la fiction théâtrale, nouveau style de fiction, tourné comme une fiction, mais comme si c'était une pièce de théâtre. Vous allez découvrir ce style totalement novateur, notamment créé par Sam Carman, qui sera notre invité pour nous le présenter. Et puis en fin d'émission, Renaud sera un des personnages centrales avec Samuel Chardot. Tout au long de l'été, dans Demain nous appartient, son interprète Pierre Denis nous dit tout sur cette intrigue de l'été qui nous attend dès aujourd'hui dans la série. Alors c'est parti, on perd pas de temps et tout de suite on commence par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on va démarrer tout de suite avec les audiences de lundi dernier. Il y avait Camping Paradis avec l'épisode inédit avec Corinne Touze qui a rassemblé 4 351 000 téléspectateurs pour 21,3% de part de marché. Il y avait Marie au premier regard qui se terminait également sur M6 avec 2 555 000 téléspectateurs et 12,5% du public. The Tourist sur France 2, petit score à peine 10% de part de marché, 2 003 000 téléspectateurs. Mardi, Tandem se terminait sur un score record avec quasiment 5 millions de téléspectateurs et 25,4% du public, s'offrant la première place du podium devant TF1 et Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui réunit 2 431 000 téléspectateurs et 14,7% de part de marché. 911 sur M6 fait un petit score avec seulement 1 867 000 téléspectateurs et petit score également pour la grande saga du Tour de France sur France 2 avec seulement 1 747 000. Faux-semblant sur France 2 arrive en tête mercredi, 7,5% du public et 3 120 000 téléspectateurs, tandis que Doc sur TF1 fait 2 731 000. Le village préféré des Français qui a vu la victoire de Bergheim en Alsace s'offre la troisième place avec 2 201 000 téléspectateurs et 12,8% de part de marché. Score correct pour le plus grand karaoké de France, premier numéro, 10,8% de part de marché pour M6 et 1 820 000 téléspectateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière et tout de suite c'est Michael Mittelstadt qui nous rejoint. On va parler d'Ici tout commence et de l'été de Greg Delobel. C'est parti.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à Ici tout commence, vous savez, c'est une série qu'on adore parler, évidemment. Et je sais que vous l'adorez dans son rôle de Greg Delobel. Michael Mittelstadt qui est avec nous. Bonjour Michael.
Bonjour.
Merci d'être là, Michael. Je suis super heureux de te recevoir, parce que Greg, on l'adore. Pour être honnête, avec Lionel, on adore quand vous faites toujours des petites bêtises, quand vous êtes en train toujours un peu de piapiater les uns sur les autres. Vous êtes un peu les commères, tous les deux.
Un peu, ouais, un peu, c'est un peu nous. On redéfinit le terme de commère un peu embêtante.
Bon, dis-moi, comment t'es arrivé dans cette aventure ici, tout commence, et comment tu la vis maintenant depuis quasiment 2 ans? C'est incroyable, ce succès.
Grave, 2 ans, ça fait. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines et à la fois 2 décennies. Moi, en fait, j'habitais à New York avant que la série démarre. J'ai passé un casting en visio, enfin rien de plus classique. Enfin non, c'est un peu original parce que c'était en visio, c'est vrai. C'était pas en personne. Et une semaine avant le démarrage, j'apprends que j'ai été pris pour ce rôle de Greg de Lobel où le descriptif c'était BG, mais arrogant, prétentieux, fils à papa, bad boy. J'ai tout de suite dit allez c'est parti, je pense que je vais me marier.
Et c'est pour moi.
Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et je me suis vraiment beaucoup marré, surtout quand on suit l'évolution vraiment démesurée qu'a vécu Greg sur ces 2 années. C'est d'autant plus intéressant pour un comédien parce que du coup j'ai toujours quelque chose à aller chercher, quoi. Parce qu'il obéit pas seulement à un seul cadre, vu qu'il joue au petit con avec Lionel, et il peut être touché et émotif avec Elliot. Donc c'est des facettes qui sont intéressantes à aller creuser pour un comédien.
Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est l'évolution du personnage avec vraiment un refus de se comprendre, peut-être soi-même, déjà, ce refus de l'homosexualité. Et vraiment l'évolution qu'on a pu voir avec Elliot tout au long de la série. Et puis ce refus d'aimer, quelque part, le refus d'amour. Alors qu'on sentait que ces deux-là, quand même, c'était chien et chat. Et puis voilà, ça a fini ensemble. Mais c'est une belle histoire, une belle évolution dans ce personnage.
Oui, absolument. C'était pas prévu dès le départ. Moi, j'étais persuadé que ça l'était, mais les auteurs m'ont avoué que ça s'est fait entre-temps. Et c'est chouette parce que je pense qu'on a vraiment réussi à montrer que j'avais un professeur de théâtre quand je bossais sur Roméo et Juliette qui nous avait parlé de Roland. Comment c'est Roland Barthes? Qui justement a traité sur l'amour et qui disait justement que c'est la haine et l'amour étaient deux sentiments très 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 cousins au final, et qu'en fait quand on disait je te déteste, souvent il y avait beaucoup d'amour derrière ça en fait. Et du coup on a essayé de trouver cette nuance de subtilité dans les épisodes qui a amené la relation entre Greg et Elliot, où il y a eu beaucoup de conflits physiques, il y a eu beaucoup d'insultes aussi, des mots durs, des violences, alors qu'à l'intérieur ils pensaient l'inverse, quoi.
Ouais, c'est ça que j'ai trouvé vraiment super au fur et à mesure de voir l'évolution justement de ce couple où il y a eu vraiment des scènes très difficiles entre vous et voilà cette histoire qui en ressort, et évidemment qu'aujourd'hui on connaît tous. Avec Nicolas, il doit y avoir quelques moments de fou rire, non, quand même?
Ah, il y en a beaucoup, et c'est terrible parce que Nico et moi on est très différents, mais on s'adore parce qu'on est, en fait je crois qu'on est complémentaires dans le sens où lui il est très, enfin c'est un danseur, il est très gracieux, il est droit, il est dans l'écoute, alors que moi je saute un peu partout dans tous les sens comme une pilule électrique qu'on a envie de calmer. Et donc c'est chouette, et un peu cet équilibre improbable qui se crée entre nous deux. Et il y a pas mal de fou rire, ouais, notamment avec le bébé. Là il y a pas longtemps, pour l'intrigue d'été, on a eu des cascades un peu rocambolesques où j'ai pas fait gaffe, je lui ai malheureusement donné un coup là où il fallait pas. Il a mis des heures à s'en remettre, donc je m'excuse encore, mais c'est dans le feu de l'action, on se rend pas toujours compte de ce qui se passe. C'est chouette d'en parler maintenant parce que je pense que les gens vont comprendre de quelle scène il s'agit quand l'intrigue d'été sera passée.
Et bah justement, l'intrigue d'été, on arrive en plein dedans sur ce mois de juillet et août. Alors évidemment, il y a le passage à cette troisième année pour vous, élève, qui est arrivé dès le début. Tessier, il est horrible avec vous, mais alors, qu'est-ce qu'on aime. Plus il est vilain, plus on aime.
Ah oui, c'est le genre de, ce sont ces personnages qu'on adore détester. Hein. C'est difficile de s'en détacher. C'est difficile aussi de dire, de l'assumer qu'on l'aime. Mais au final, c'est la vérité. Ils sont attachants. Mais c'est vrai que lui, dans sa catégorie, il expose pas mal de records.
Hein. Ah oui, t'as quasiment tous les records. Ça, c'est clair. S'il y a une scène particulière qui ressort de ces 2 années, laquelle t'aurais envie de nous parler là?
Sur ces 2 années, oui, il y en a beaucoup trop, mais je pense qu'il y a une séquence qui m'a beaucoup. Alors moi, j'avais pas grand-chose à faire dedans, mais j'ai appris énormément sur le. Bon, j'ai pas dire sur le jeu d'acteur. Enfin, si, quand même, ça a été une belle leçon. C'est de la première séquence que j'ai tournée avec celle qui joue ma mère, Christelle Reboul, qui est une comédienne formidable. Et ça, alors, je crois qu'elle venait de débarquer. Elle a à peine fait ses essayages qu'elle devait tourner une scène. Et la première scène, c'est quand elle découvre son fils assommé au pied d'un arbre. Donc il n'y a pas de texte, elle débarque, elle voit ça, elle hurle « Non, mon fils, à l'aide, au secours !» Et elle l'a fait avec une telle intensité. En plus, c'était l'hiver, il était en février, il faisait quoi, 5 degrés à 8h du mat. Elle l'a fait avec une telle intensité, mais dès la première prise, moi, j'ai pris une leçon, quoi. Je fais « Ah ouais, là, ça, voilà quelqu'un qui est dans l'instant, au rendez-vous, et qui est d'une générosité, mais exemplaire. » Et ça, pour le coup, c'est la scène-là qui me vient en tête quand je me fais le scan de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Alors pourtant moi j'ai rien fait, hein. J'avais les yeux fermés et j'attendais patiemment dans le froid en essayant de pas trop grelotter.
Bon, il nous attend quelques aventures avec Greg cet été, alors je crois sans trop trahir de secret quand même que de Lobel père est de retour également.
Yes, un comeback explosif pour Joseph qui joue Benoît. Parce qu'en fait, du coup, l'intrigue d'été va se dérouler au sein du championnat national de pâtisserie. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va héberger le championnat dans l'un de ses hôtels, qui s'appelle l'hôtel Beaumont. Et il va se passer moult péripéties, des enquêtes, des intrigues, des disparitions, des moustiques et de la chaleur.
Voilà, ça va donner. Et ça va nous tenir en haleine tout l'été, tout ça.
On espère. Nous, ça nous a certainement tenu en sueur pendant tout le tournage. mais oui, on espère, on croise les doigts. Moi, ça m'a plu en tout cas.
Normalement, vous êtes parti pour 3 ans, les élèves, ça change. Et on voit que, malgré tout, on est en train d'esquisser des possibilités de voir 2 ans supplémentaires. Certains élèves, notamment les 3e années, avec les masters qui est en train de monter Vanessa Demouy dans la série. T'as vu, je suis, hein.
C'est vachement bien d'ailleurs, tu suis mieux que moi parce que moi je la regarde pas la série, je suis parfois un peu à la ramasse quand on me pose des questions sur les autres intrigues. Mais oui, non, mais c'est génial parce que comme ça on peut garder un peu d'ancienneté tout en pouvant accueillir les nouveaux et le sang frais des nouvelles promos qui vont débarquer. Après bon, le monde est rempli de surprises, moi je sais pas trop ce qui va se passer pour moi demain, donc évidemment le plan c'est de finir sa 3e année, de voir où ça va nous emmener et voilà.
Non, c'est parti pour au moins 1 an alors du coup encore.
Inch'Allah.
Bon, est-ce que t'as d'autres projets? Est-ce que ça a ouvert des portes pour toi ici tout commence justement?
Énormément en fait. Ce qui est chouette, c'est que comme on est à l'affiche, on est à l'écran tous les soirs, les directeurs de casting vont plus vite savoir en fait qui on est et ce qu'on sait faire. Donc sur la décision et la prise de et la proposition de rôle, ils peuvent très vite cerner là où on est à l'aise, là où on est moins à l'aise, si on serait une bonne possibilité pour un certain rôle, etc. Et en fait, moi là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis parti sur 2 projets depuis le début de la série. Un qui s'appelle Les Combattantes.
Oui, qui sera diffusé à la rentrée sur TF1.
Voilà, je crois que c'est ça, effectivement. Alors là, je j'ai pas un très gros rôle, mais au moins ça m'a permis de faire partie de l'aventure titanesque qu'est Les Combattantes, quoi. Ce fut 8x52. Et ensuite, un deuxième qui s'appelle Bardot, qui est une mini-série sur Brigitte Bardot, au sein de laquelle j'interprète Gilbert Bécaud.
Super! Voilà. Ça va être sympa. Et tu retrouves Fabien Wolfram, du coup, qui lui va interpréter Sacha Distel.
C'est ça, alors c'est drôle parce qu'on tourne pas énormément sur ITC ensemble, on n'a pas beaucoup d'intrigues ensemble et Sacha et Gilbert ne se sont pas croisés, en tout cas du moins dans cette série là, mais on s'est vu sur les plateaux et c'était drôle quoi de se voir dans d'autres costumes, dans un autre registre, on était lui et moi très contents quoi.
Bon, en tout cas on se retrouve déjà tout au long de l'été, non ici tout commence et tous les soirs évidemment à 18h30, on va suivre tout au long de l'été vos aventures de la famille de Lobel qui va être à l'honneur pendant tout cet été. Mickaël, merci d'avoir été avec nous et puis on te dit à très bientôt.
Merci beaucoup Alain, à très vite.
On dirait le lancement des Hunger Games. Voilà les armes à l'aide, seuls les survivants auront leur diplôme.
Vite! Allez!
Il n'en restera qu'un.
Ou une.
C'est toi qui dois sortir majeur de cette promo.
Vous ne bougez pas dans un instant, notre spécial Plus belle la vie avec Dunia Cossin, Sanaka. On aura également Ami d'enfance dont on parlera avec Sam Carman et puis on terminera avec Pierre Denis. Alors surtout, à dans 3 minutes dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Il y a des retrouvailles qui ne se manquent pas. Soirée exceptionnelle, Plus belle la vie. Bientôt sur France 3.
Notre spécial Plus belle la vie, le prime, l'avant-dernier prime événement de Plus belle la vie, eh bien, s'intitule Retrouvailles. C'est demain soir sur France 3. Pour ce mardi 5 juillet, Dunia Cossin, c'est avec nous. Bonjour Dunia.
Salut.
Après s'être retrouvée sur le tournage de la Doc Helvéto, eh bien, écoute, Johanna is back. Pour les meilleurs, pour le pire, ou pour le rire. On sait pas, mais je pense qu'il va y avoir un peu de tout ça.
Exactement, c'est un mélange de tout, c'est vrai. Non, ben Johanna revient, voilà, elle arrive en force, hein, on va dire, sans spoiler, mais elle est, voilà, elle a réussi dans la vie, elle a envie de le montrer, elle arrive, voilà, elle fait une belle entrée, on va dire. Elle a une belle évolution aussi, voilà, on va la retrouver encore avec toutes ces carapaces qu'elle peut avoir. Évidemment, il y aura des scènes aussi avec sa maman, Blanche Johanna, le duo infernal. Et elle va surtout, c'est la première fois qu'on la verra à l'écran avec son petit frère Noé. On l'a vu quand il était beaucoup plus jeune, mais là avec ce comédien là avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler d'ailleurs, Florian Le Sueur, je pense qu'il va y avoir de jolies scènes pour la famille Marcy.
A-t-elle retrouvé un petit peu Xavier Revel ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. L'histoire est définitivement. Remarque, ils ont divorcé à Total, hein. Il y a séparation. Donc voilà, c'était pas sûr qu'il y ait des petites interactions. En tout cas, je suis sûr que ça t'avait plaisir de retrouver Rudy, de retrouver Ninon, de retrouver tous ces personnages qu'on a tellement aimés.
Ouais, bah oui, carrément. Bah déjà, c'est des amis dans la vie, donc c'était super de les retrouver pour jouer ensemble. Et puis c'est marrant parce que on s'est dit après tant d'années sans jouer tous ensemble, voilà, on avait chacun préparé notre perso, notre parcours, qu'est-ce qui s'est passé pendant tant d'années. Et en fait, quand on a commencé à jouer ensemble, c'est comme si on s'était jamais quitté en fait. Là, il y avait encore de la complicité, il y avait encore voilà le feeling qui passait entre nous, et c'était hyper agréable.
Alors, Retrouvailles, c'est bien sûr l'histoire de ce bal de lycée qu'on a vu amorcer tout au long de ces derniers jours, sous l'impulsion dans la série de Lola et de Sonali. Et puis évidemment, bah, les anciens sont invités, et c'est dans ce contexte-là que vous faites tous votre retour. Et évidemment, rien ne se passera comme prévu, autrement c'est pas drôle.
Bah,
on est bien d'accord.
Bah oui, évidemment. Oui, oui, c'est ça. Voilà, et c'est surtout sur un truc de passation en fait. C'est-à-dire que il y a les jeunes et les anciens, et en fait, ce que vivent les jeunes résonne avec ce qu'ont déjà vécu les anciens, et nous on va essayer de les guider, voilà, de leur donner des conseils, et moi notamment justement avec Noé qui est pris entre deux feux, et j'essaie de lui montrer un peu le chemin.
Alors c'est vrai que c'est un prime qui a été tourné dans des conditions très particulières, alors que ça aurait dû être un prime hyper joyeux, de tous vous retrouver, que ça soit quelque chose d'hyper festif. Bah, le coup près est tombé, quasiment en plein tournage de ce prime, avec l'arrêt de la série. Donc je suppose que vous avez dû vraiment en parler justement ensemble, vous les anciens, que ce soit avec Aurélie, avec Ambroise, qui a accepté ce retour aussi, mais avec Anaka aussi, qu'on va retrouver dans un instant. Ça a dû être un coup quand même au moral.
Ah oui, 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 totalement. Enfin, même si on n'y est plus, c'est très étrange de savoir que ça va se terminer. Déjà, on se demande, voilà, qu'est-ce qui va arriver par la suite, déjà aux équipes techniques, qui c'est quand même 50% de leur travail là-bas. Donc, c'est vrai qu'ils flippent un peu. Et puis aussi, pour tous les comédiens qui sont installés sur place, on espère qu'ils travailleront aussi ailleurs et que France Télévisions les fera travailler ailleurs. Et puis surtout, enfin, moi, je suis retournée sur les décors, la place du Mistral, tout ça. J'étais seule, il y avait un projo allumé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va devenir. J'ai revu tous mes souvenirs là-bas des scènes quand j'avais 15 ans, et c'est vrai que j'ai versé ma petite larme, quoi, parce que c'est terrible. Enfin, j'ai quand même passé 10 ans de ma vie là-bas, et c'est hyper touchant que ça s'arrête. Et puis en plus, nous, quand on vient à Marseille, on a envie de retrouver l'équipe. Donc parfois, même quand on tourne pas, quand on n'est pas repris sur Plus Belle, on a envie de retrouver les gens. Mais là, c'est-à-dire que si ça s'arrête, tout le monde va être dispatché, et il y aura plus cette troupe qu'on peut retrouver comme ça. Donc ça fout un coup au moral et au cœur, ouais.
C'est ça, parce que c'est vraiment une troupe Plus Belle la Vie, on le dit depuis des années, parce que on a fait partie des premiers vraiment à défendre la série Becs et Ongles depuis les débuts de notre émission, et c'est vrai que même nous, on n'y a pas cru quand l'annonce est arrivée, et on imagine vous tous, voilà, le choc que ça a dû être, même voilà, si c'était anticipé depuis, voilà, vous le saviez peut-être depuis déjà quelques semaines avant nous, mais en attendant, voilà, c'est quand même compliqué, j'imagine, à vivre pour toutes les équipes. Toi, tu y as passé 10 ans. Tu le disais, après tu y as refait quelques petits retours quand même malgré tout. Si tu devais évoquer les meilleurs souvenirs de Plus Belle la Vie, toi, est-ce que tu as des souvenirs particuliers qui te reviennent en mémoire?
Bah, alors c'est marrant parce qu'on nous pose souvent cette question en ce moment.
Ouais, t'as eu des moments de grâce, je pense, avec le personnage de Blanche, par exemple, quand il y a eu vraiment, voilà, ton mari qui avait cette histoire avec ta mère, les histoires où ça s'est vraiment frité, pour le coup, où il y a eu vraiment des mots qu'ont pu dépenser des fois les pensées, il y a eu des moments forts entre toi et Cécilia Ornus, là, à ce moment-là.
Ouais, exactement. Bah, c'est ça, on a fait une interview avec Cécilia il y a pas longtemps, on nous a demandé aussi quels étaient nos meilleurs souvenirs. On n'arrivait pas à choisir tellement il y en a, parce que c'est quand même une très belle aventure. Et effectivement, c'est ça qui ressorti aussi, c'est moi je me souviens de toutes ces scènes très intenses entre Blanche et Johanna qui moi m'ont aidé à, je pense, évoluer en tant que comédienne, parce que je trouve que Cécilia Ornus est une bête de comédienne et qui elle m'a emmenée sur un territoire que je ne connaissais pas et qui m'a fait vraiment évoluer, et on a vécu des moments très intenses. Et moi je me souviendrai aussi toujours d'un souvenir qui me marque. En fait, il y avait le décor de l'appart Marcy, et je me souviens quand la série avait du mal à marcher au départ, on écrivait les audiences à la craie derrière ce décor, et en fait quand ça a commencé à marcher de plus en plus, on notait 11% et 12% et 13%, et on notait, et la colonne n'en finissait plus tellement ça montait en fait, et on avait toute cette colonne à la craie, on était joyeux, on était content de pouvoir continuer cette série, que ça marche et que ça parle aux gens, et cette colonne est restée des années jusqu'à temps que le décor soit enlevé, parce que ce décor n'existe plus. Mais voilà, je me souviens de la joie qu'on avait de voir les audiences audiences montées. Et puis tous les souvenirs aussi par rapport aux spectateurs qui nous ont écrit sur des intrigues qui leur parlaient, des moments d'émotion terribles quand on ouvrait des lettres et qu'on se disait voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier à la base, c'est pour faire rêver les gens, pour leur faire prendre conscience de choses, pour qu'ils arrivent à se retrouver aussi dans des intrigues, dans des personnages. Et c'est vrai qu'avec Plus belle la vie nous a offert ça enfin fois mille quoi. Et voilà, donc c'est tous ces moments là aussi, ces moments avec les fans, c'est vraiment des super souvenirs.
Bon, en tout cas, des souvenirs, je suis sûr qu'il y en aura encore plein qui vont se greffer. Voilà, je ne sais pas, peut-être que voilà, un jour, Plus belle la vie renaîtra ailleurs. En tout cas, on croise les doigts, évidemment, tous pour. En attendant, là, tu n'as pas chômé parce que tu viens de passer 2 mois aussitôt le prime terminé. Tu as eu 3 jours de repos, je crois.
Ouais.
Direction l'Auvergne et on va te retrouver dans 2 nouveaux épisodes de Adoc Helveto puisqu'on était sur le tournage avec toi et Michel, justement, il y a quelques semaines. Ça aussi, c'est une belle aventure, dis-moi.
Ah, ça, c'est une... J'adore cette aventure, moi. Non, j'adore parce que déjà, on est dans une très belle région, l'équipe est top, l'équipe technique est hyper sympa, hyper pro. Et puis surtout, enfin, déjà, c'est un plaisir de jouer avec Michel. C'est une personne chouette et très bienveillante, qui a envie de bien travailler, de bien faire. Donc, c'est chouette de l'avoir parce que je joue quand même une médecin, donc il me dirige sur tous mes mouvements. Mais aussi, j'adore le personnage d'Emma. Enfin, franchement, c'est rare d'avoir un personnage aussi riche parce qu'elle a autant cette recherche avec sa mère. Donc, t'as des scènes dans l'émotion. T'as des scènes où elle est très douce et très bienveillante avec ses patients. Et elle a envie de les soigner, de les faire avancer aussi dans leur vie parce qu'elle est médecin de campagne, donc elle est aussi psy parfois. Et puis, elle a ce côté provoque, comique. C'est chouette d'avoir toute cette palette en fait.
Exactement, et on retrouvera donc 2 nouveaux épisodes en 2023 qui maintenant partent tout simplement au montage. Voilà, et puis on espère vous retrouver très vite. Merci Dounia d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et Plus belle la vie, c'est demain. Retrouvailles, c'est le prime événement qui vous attend. L'avant-dernier prime de Plus belle la vie, parce que ce n'est pas le dernier. Vous en aurez également un autre pour clore la série. Il s'appellera La fin, ça sera le 18 novembre prochain. Donc en attendant, on va déguster celui-ci demain soir.
Événement sur France 3.
Ça fait des années qu'on a quitté Marseille, il faut que notre retour il l'envoie.
La joie des retrouvailles.
Alors, qu'est-ce que vous devenez?
Entre désir de nostalgie.
Que de souvenirs. Hein.
Et peur de représailles.
Il cache bien son jeu, le petit frère. Hein.
Je veux prouver que t'es un bonhomme.
Ça peut être du LSD, du GHB.
Et de retour pour notre spécial Plus belle la vie avec Anaka qui est notre invitée, on vous l'avait promis, Amandine is back dans Plus belle la vie pour ses retrouvailles. Bonjour Anna.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors ça a dû être une surprise, non seulement c'est une surprise pour les téléspectateurs, mais ça a dû être une sacrée surprise pour toi de voir Amandine faire son grand retour. Combien d'années plus tard? 8 ans?
C'était en 2014.
Ah ouais.
Donc ça fait un bout, hein.
Ça fait huit ans,
c'est ça. C'est vrai que moi, j'avais pas compté. Tu vois, j'avais pas pris le temps de compter, 8 ans, voilà. Donc oui, c'est une super surprise.
Alors depuis, t'as fait un grand bonhomme de chemin. T'as vu dans The Voice. On t'écoutera chanter d'ailleurs aussi d'ici quelques instants. Mais Anna, ce retour t'a surpris, certes. Est-ce que t'étais heureuse de retrouver déjà Amandine?
Ah, j'étais ravie parce que ce personnage m'a manqué, m'a marqué. Aussi bien dans ma vie de comédienne que dans ma vie privée. C'est vrai que ça a été une grande étape en fait pour moi à jouer ce rôle, parce que c'était mon premier rôle à la télé, tout simplement déjà à la base. Et c'est vrai qu'en plus de ça, eh bien c'était un personnage qui était quand même haut en couleur, qui vivait des choses particulières, très difficiles, et j'ai été très fière de pouvoir défendre ce personnage.
Et qui délivrait un message fort aussi pour ceux qui n'étaient pas là en 2014. Anna, rappelle-nous un petit peu les aventures d'Amandine Turpin à l'époque.
Elle est lycéenne, elle a 17 ans, et en fait, elle a déjà fait un arrêt dans sa scolarité dû à une justement dépression pour harcèlement scolaire. Donc, c'est très fort, puisqu'en plus, par les temps qui courent, on en parle énormément du harcèlement scolaire, parce que c'est un peu un fléau chez les jeunes. Donc, à l'époque, c'était quelque chose qu'on mettait en lumière, parce que c'était déjà quelque chose qui était compliqué. Et donc, elle revient un petit peu en disant qu'elle doit quand même maintenant reprendre les chemins du lycée pour pouvoir poursuivre sa scolarité normalement. Et donc, on la voit entourée de ses camarades. C'est un retour très remarqué un jour de d'école, puis elle revient en cours d'année. Et puis, ça n'a pas changé malheureusement, puisqu'elle attire toujours les moqueries dues à son physique, principalement. Les remarques et les moqueries sont ciblées sur son physique. Elle est ronde, Elle est grosse, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'elle est.
Elle est carrément victime de grossophobie à l'époque, hein. Moi, je me souviens.
Elle est victime à l'époque, en fait, de grossophobie, puisque ce mot, alors, ce mot existe maintenant, donc on peut le dire. Et puis voilà, et c'est une fille qui est intelligente, qui fait des études, elle ne sait pas faire. C'est ce que j'aime chez ce personnage, et c'est ce qui, je pense, aussi a plu aux gens, c'est que et moi quand j'ai reçu des messages pour dire que voilà, ça avait aidé pas mal de personnes à pouvoir effectivement répondre, c'était un peu ça le contexte de l'époque.
Alors là, le cours de sa vie a un petit peu changé, je pense. Elle fait un retour en grâce au lycée, grâce au bal organisé par le personnage de Lola. Évidemment, ces retrouvailles vont pas se faire uniquement avec les élèves du lycée actuel, mais aussi avec d'anciens élèves, Rudy, Ninon, Sybille et Johanna, avec Dunia qu'on avait à l'instant, font leur grand retour. Et des retrouvailles qui vont tourner au cauchemar, évidemment.
Bah oui, parce que retrouvailles, parce que un prime de la vie sans que ça vire complètement, c'est pas vraiment un prime de la vie. Et moi, j'adore ça, et je trouve que ils ont fait un travail énorme, et ça met en lumière aussi encore d'autres choses. Et en fait, ce qui est très surprenant et à la fois hyper intelligent de la part des auteurs et réalisateurs de cette prime, c'est que ça met en fait finalement en parallèle l'histoire de Sonali et mon histoire, c'est-à-dire avec une histoire d'amour au milieu, quelque chose de laquelle ne s'accepte pas non plus. Elle a ses complexes aussi, Sonali. Donc c'est vachement beau, parce qu'à un moment on se retrouve effectivement dans cette galerie des retrouvailles, et en fait c'est hyper beau parce qu'elle me parle du fait qu'elle soit voilà amoureuse de quelqu'un, et que moi, avec Valentin, j'avais attendu, j'avais laissé mes complexes prendre le dessus. Enfin, Amandine avait laissé prendre les complexes prendre le dessus, et je dis à Sonali que si effectivement elle veut cette personne, et il faut pas qu'elle se laisse manger par ses démons et ses complexes, parce qu'elle est magnifique et que dans tous les cas, on s'en fout en fait. Tout ça, il faut vivre. Donc c'est assez beau. J'ai aimé ce parallèle avec ce personnage.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, Amandine, alors, entre-temps?
Oh, bah, Amandine,
on va la retrouver dans quelles conditions? Elle fait quoi? Est-ce qu'on sait quel métier elle fait? Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue en 8 ans?
Alors, on le raconte pas dans le prime, mais on le voit, parce que c'est assez flagrant, si j'ose dire. Après son départ de la série, après sa rupture avec Valentin, puisque, comme je disais, ses complexes ont pris le dessus. Malheureusement, elle n'a pas su passer outre ça. Et c'est assez terrible d'ailleurs, parce qu'elle est passée certainement à côté de quelque chose. Mais toutefois, comme on le sait que c'est quelqu'un de très très fort, elle a su prendre le dessus autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, une histoire d'amour peut être un peu trop compliquée, parce que trop personnelle. En revanche, elle aimait la musique. Elle l'aime toujours, puisqu'elle en a fait son métier. Et elle a écrit. Alors je suppose, moi je me suis inventé tout un parcours, parce que elle a utilisé justement cette douleur du lycée, toutes ces moqueries, toutes ces choses, pour déjà peut-être pas changer pour les autres, mais changer pour elle. C'est-à-dire qu'elle a évolué physiquement, elle a évolué même dans sa façon de prendre soin d'elle, mais elle est quand même toujours un peu rock'n'roll. Alors c'est ça qu'on aime chez elle. Et en plus elle chante, parce que elle s'est découvert aussi cette passion pour la musique qui allait au-delà des vieux vinyles qu'elle achetait. Donc c'était hyper fun de l'avoir évolué ainsi. Et puis c'est un peu mon histoire. Donc moi je suis pas une star de la chanson comme on décrit Amandine, mais j'ai aussi fait ce parcours. Après le lycée, je suis devenue chanteuse, et je trouvais ça vraiment c'était hyper ému quand j'ai découvert ce qu'il voulait faire du personnage, et je trouve ça beau en fait, voilà, ce parcours qu'elle a fait.
Eh ben écoute, on va écouter Anaka qui chante aussi, parce que Anna, tu chantes.
Oui.
Tu étais venue d'ailleurs dans notre belle région à notre rencontre pour faire une belle émission de radio, c'était top. Et effectivement, l'aventure The Voice pour toi aussi a été très belle. Et donc, on a envie de t'entendre chanter, évidemment, pour terminer cette interview. Quel morceau que tu as envie qu'on passe là de toi?
Eh ben justement, faisons un pied de nez en la musique et au physique. Et j'ai repris il y a quelque temps une chanson qui s'appelle Fat Bottom Girl de Queen, qui est donc littéralement fille à grosse fesse et fière de l'être, clairement. Et donc j'ai fait cette reprise il y a quelque temps, et je voulais la partager avec vous, voilà, avec tous les auditeurs.
Eh bien, on va l'écouter. Merci beaucoup, Anaka, notre invitée aujourd'hui, infiniment. Pour notre spécial Plus belle la vie qu'on termine avec toi. Ça s'appelle Retrouvailles. C'est demain soir que vous allez pouvoir retrouver Amandine Turpin dans Plus belle la vie. 8 ans après son départ de la série, Anna fait son grand retour. Merci à toi et on te dit à bientôt.
Merci à toi aussi. À bientôt.
Take me to them dirty ladies every time. Now come on, girls. Oh, won't you take me home tonight? Oh, down beside your ass for light. Oh, and you give it all you got. Five bottom girls, you make the rocking world go round. Yeah, five bottom girls, you make the rocking world go round. Now I got mortgages and loans, got the stiffness in my bones, and no beauty queens in this locality. But I still get my pleasure, still got my greatest treasure. Hey, bigger woman, you don't need a bigger army. Now get this. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, go beside the rest for life.
Coup de cœur télé consacré à Amis d'enfance qui sera diffusé demain sur France 2 avec à la réalisation notamment Sam Carman qui est notre invité aujourd'hui pour en parler. Bonjour Sam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai adoré parce que c'est complètement novateur puisque Amis d'enfance, c'est ni une pièce de théâtre pure, ni une fiction pure. C'est un mélange des deux. Et franchement, eh bien, il fallait le faire pour arriver à créer quelque chose de complètement nouveau comme ça.
Écoutez, ben, merci de votre enthousiasme. C'est vrai. Je le dis souvent, mais de la contrainte naît la création et naissent les idées. Voilà. Et c'est vrai qu'on est parti d'une pièce de théâtre et qu'on n'a pas pu le faire parce que le Covid, parce que ceci, parce que cela. Et je me suis dit, non, on va pas attendre de nouveau que le théâtre soit ouvert. Moi, j'avais une équipe de comédiens absolument formidable parce que dans cette aventure, c'est vrai que le casting est super important. Isabelle Gélinas, Nicolas Briançon, François-Vincent Telly et Anne Jacquemin. 4 magnifiques comédiens qui sont à la fois rompus au théâtre, à l'exercice théâtral, et à la fois rompus à la caméra. Et que, voilà, c'est devenu cet objet, comme vous le dites, en fait, c'est une fiction théâtrale. C'est l'appellation qu'on a trouvée.
Mais avec carrément du public, quoi. Carrément. En plus, hein, il y a du public. Vraiment comme une pièce de théâtre. Et par contre, il y a des décors exactement comme une fiction. C'est présenté vraiment comme une fiction avec un générique et tout. C'est ça qui est vraiment bluffant.
Oui. C'est vrai que tout sur une scène de théâtre, on n'aurait pas eu, on aurait eu que la terrasse de cette maison d'hôtes.
Ben oui.
On n'aurait pas eu la piscine, on n'aurait pas eu le parking, on n'aurait pas eu l'entrée par derrière, on n'aurait pas eu la chambre d'amis, on n'aurait pas eu la cuisine. Et avec ce principe de mettre dans le jardin, devant cette terrasse, et d'imposer que le public qui voit la pièce n'est jamais perdu, puisque quand la scène se passe ailleurs, eh bien, on projette, si vous voulez, l'action sur la façade de la maison d'hôte, et on sonorise. Et comme il y a souvent ça, en plus, maintenant, dans les pièces de théâtre, on a souvent de la vidéo qui vient se mêler. Eh bien là, c'est le théâtre qui est venu se mêler dans la vidéo.
Ah oui, alors ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Ça me fait penser un petit peu, Sam, corrigez-moi si vous pensez pas la même chose, mais ça me fait penser un peu aux Baudins, grandeur nature, aux spectacles qu'ils font dans leur ferme, avec vraiment une ferme grandeur nature où ils accueillent du public. On est quasiment dans de la fiction théâtrale avec des décors absolument grandioses. Et ça me fait penser un petit peu à ça au premier abord.
Oui.
Mais là, encore plus fictionné. Ça ressemble quand même encore plus à une fiction.
C'est une pièce qui aurait pu se jouer. Toutes les actions de cette pièce, si elles avaient été faites et créées pour le théâtre, dans un théâtre, on va dire, tout se passe finalement sur la terrasse. Tous les protagonistes se retrouvent sur la terrasse pour délivrer, entre guillemets, leur scène. Vous voyez ce que je veux dire? Les scènes à 4, les scènes à 2.
Mais oui.
Au lieu de, faire la vaisselle, eh bien le couple qui reçoit aurait débarrassé pendant ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, oui, tout à fait.
C'est des ajustements, mais ça tenait plutôt que de faire la scène dans la chambre, de se laver les dents et on se met au lit pour le couple qui est invité. J'aurais isolé dans un coin du théâtre, j'aurais figuré cette chambre d'amis, c'est-à-dire que par des systèmes d'éclairage, j'aurais fait un principe où on comprenait qu'il y avait une porte ouverte qui ouvrait sur ce qu'on comprenait être une chambre et que la scène se passe devant la chambre, vous voyez ? Et ainsi de suite. Ça aurait été la scénographie du théâtre. Mais puisqu'on était dans des décors naturels, réalistes, vrais, puisqu'on est dans une maison d'hôte, évidemment, ça nous a permis d'aller dans les véritables décors.
Vous avez tourné en combien de temps ?
C'est l'ensemble du projet qu'il faut concevoir, parce que je vais vous répondre, mais pour tourner aussi vite, il faut travailler énormément en préparation.
Ah bah bien sûr, donc, mais comme au théâtre, hein, faut pas croire, hein, quand vous êtes sur scène au théâtre, c'est des mois de répétition avant.
Alors, peut-être pas des mois, mais des semaines.
Ouais.
Nous avons, les comédiens ont eu 3 semaines exactement pour apprendre le texte, ce qui est déjà une gageure, parce que vraiment apprendre, et puis c'est apprendre dans la tête, après il faut que le corps s'y mette, parce que tous les acteurs vous diront, c'est pas seulement, c'est bien beau d'apprendre un texte et de le réciter, et de le savoir assis sur un fauteuil, bien concentré, en disant, voilà, je récite le texte, et puis commencer à se lever et à l'interpréter, et là on s'aperçoit que c'est une connaissance du texte supplémentaire, profonde qu'il faut avoir. C'est la mémoire du corps et non plus de la tête dont a besoin l'acteur pour jouer.
Mais oui.
Et donc ils ont eu 3 semaines d'apprentissage pendant lesquelles moi je faisais la préparation, c'est-à-dire que j'ai été en province près d'Avignon puisque ça se passe près d'Avignon et puis j'ai été voir des maisons d'hôtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, j'en ai vu sur photo, etc. Et puis j'ai trouvé la merveille car je considère que le décor que dans lequel nous avons tourné est merveilleux et je ne pouvais pas trouver meilleur décor que celui-ci et donc j'ai pris des photos, j'ai refait des relevés, j'ai pris un décamètre en disant voilà, alors donc cette pièce elle fait temps par temps, des photos, des bouts de film, et puis je suis revenu, nous sommes passés ensuite à Paris en studio de répétition et muni de mon matériel iconographique, c'est-à-dire mes photos, mes films, j'ai montré ça aux acteurs,
ouais.
Et on a tracé au sol, ben voilà, ça c'est la taille de la cuisine, ça c'est la taille de la terrasse, ça c'est le dîner, il aura le lien, l'apéro, il aura là, ça c'est la chambre, voilà, elle est foutue comme ça, donc ça sera... Et donc, on a travaillé pendant presque 3 semaines aussi, pour mettre en place tout ça, tous les déplacements, mais on faisait comme si, mais dans un studio, mais comme si, mais dans les vrais rapports de distance.
Oui, oui.
Et quand on s'est retrouvé dans la véritable maison, les acteurs étaient totalement chez eux. Et là, tout d'un coup, les choses ont été naturelles puisqu'ils l'avaient inscrit dans leur corps. Ils savaient que j'ai essuyé les assiettes à ce moment-là, je posais à ce moment-là dans un meuble. Donc, tout ce qu'on faisait pour semblant en répétition, bon, on l'a fait pour de vrai. Pendant 2 jours, 3 jours, les acteurs ont pu, dans les vrais décors, avec les vrais accessoires de faire. Et c'est là que, avec Serge Calfon, avec qui je co-réalise, alors, si j'ai co-écrit cette pièce avec Catherine Raffen, j'ai mis en scène cette pièce seule, mais j'ai co-réalisé le résultat de ce travail avec Serge Calfon.
Il faut spécifier qu'il est quand même un spécialiste dans ce domaine du multicam, exactement. Des émissions de variété, exactement. Ou de talk show où il faut manier plusieurs caméras en même temps.
Exactement.
Serge, il est connu pour ça.
Voilà. Et donc, nous avions en commun de faire un découpage dont nous avions besoin, et puis, bien sûr, avec Serge, il y avait non seulement ce que je désirais, mais tout ce qu'il m'a apporté et auquel je ne pensais même pas, et qui est venu enrichir après le montage. Quoi. C'est magnifique. J'ai eu un grand, grand plaisir de partager ce travail. De toute façon, l'intégralité de ce travail. Alors, pour vous répondre, on a eu 8 jours de tournage, c'est-à-dire les 8 jours de 14h à 2h du matin. Quoi, hein, franchement, parce qu'il y avait la moitié du film qui se tournait de jour et l'autre moitié de nuit. On a eu une chance insolente, c'est-à-dire que pendant 8 jours d'affilée,
il a fait beau.
Il y a eu, et oui, c'était magnifique. Et les acteurs ont eu un énorme plaisir à jouer. Je m'autorise à le dire parce qu'ils l'ont dit et ils le disent, de jouer dans la continuité, c'est-à-dire d'avoir le plaisir à la fois de la vérité de la caméra qu'impose la caméra, car les acteurs sont des animaux à sang chaud. Passionnés et qui savent que quand ils sont filmés, on vient leur voler leur âme, donc ils sont dans un état de vérité totale.
Et vous savez de quoi vous parlez, Sam, en plus, hein.
Et à la fois avec la technique théâtrale qui fait que on a cette expérience de théâtre qui fait qu'il traversait des scènes de parfois 17 minutes en plan séquence comme ça, et il jouait dans la continuité, et toutes les scènes ont été jouées dans la continuité de jour, de nuit, et c'est voilà.
C'est vraiment chouette. En tout cas, vous allez vraiment suivre les retrouvailles de ces deux couples dans cette maison d'hôtes. C'est un peu une dernière retrouvaille avant que cette maison d'hôtes ils s'en séparent. Et vous allez donc découvrir effectivement cette fiction théâtrale que vous allez pouvoir suivre comme une pièce de théâtre ou comme une fiction. Libre à vous d'interpréter. Voilà.
Je peux dire un mot quand même sur le fond de la chose.
Bien sûr.
Le fond de la chose, je parle de ces amitiés d'enfance. Vous savez, celles que l'on pense absolument toujours pérennes, qui ne indestructible. Et puis un jour, un grain de sable, dont on ne sait pas pourquoi il vient, par quel vent mauvais il a été apporté, ce grain de sable, et vient gripper la mécanique, et on s'aperçoit que les choses doivent s'arrêter. Bon, ben voilà, c'est une comédie dramatique, hein, il faut le dire, c'est une comédie grinçante, parce que il y a des moments un peu émotionnels. C'est pas qu'une partie de plaisir de perdre de constater la fin d'une amitié d'enfance. Voilà. Et je m'adresse à tous ceux qui savent de quoi je parle, et je crois qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on fait de ces amitiés d'enfance au bout de 30, 40, 40 ans? Est-ce qu'on a bien mesuré ce que ça voulait dire de penser qu'une fois par an, on continuait notre conversation? Alors, c'est peut-être possible pour un des deux, c'est peut-être plus difficile pour l'autre. Voilà. C'était simplement ces réflexions qu'on avait envie de faire partager dans cette pièce.
Oui, parce que c'est clair que évidemment ces retrouvailles vont pas être de tout repos pour nos personnages, parce qu'autrement ça serait pas drôle, ça serait moins passionnant pour nous. Mais je pense que vous avez inventé en tout cas un nouveau genre qu'on va découvrir demain soir. Moi, je vous invite vraiment à découvrir Amis d'enfance, que vous pourrez retrouver ensuite sur France.tv également. Merci beaucoup Sam d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et puis on va se quitter avec la bande-annonce tout de suite. Amis d'enfance, c'est demain soir sur France 2.
C'est l'association du théâtre et de la fiction. Voilà.
Vacciné et négatif.
Et toi, t'es comment?
Négatif, je te le confirme.
Oh, encore une belle journée de glande.
Bonne bouffe, bon pinard, bonne déconne.
Ils ont fait des courses au moins?
Les tensions, après 25 ans de vie commune, c'est un peu inévitable, non?
Pour deux minutes, tu vas m'accuser d'être un pervers narcissique comme la moitié de la population masculine?
C'est ça les vieux couples. On rit, on pleure.
Peut-être, mais eux au moins, ils baisent.
Indiscrétion, scoop. News. Tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, la 9e saison d'A Chouette Collection Documentaire, Les 100 lieux qu'il faut voir, proposera des voyages sur France 5. Prochain numéro, dimanche prochain, direction la Polynésie. Et puis l'énorme carton de Canal+, qui diffusera dès 2024 pour la première fois l'intégralité des Coupes d'Europe de football. La chaîne cryptée a annoncé avoir remporté la totalité des droits de diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, et ce jusqu'en 2027, pendant qu'M6, elle, annonce avoir obtenu la diffusion en clair de la finale de la Ligue des Champions à partir de la saison 2024 et 2025. C'est sur son compte Instagram que Karine Ferry annonce qu'elle ne sera plus aux commandes de Danse avec les stars la suite, et d'ajouter que TF1 a su écouter ses envies et respecter son choix. Karine Ferry précise qu'elle continuera à présenter Chronique Criminelle et The Voice Kid. Et puis dans le monument préféré des Français, il est temps de voter pour votre monument et pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le pont transbordeur de Rochefort qui est à l'honneur. Alors, à vos votes, rendez-vous donc dès maintenant sur le site de France3.fr et rubrique monument préféré des Français. Et on va se retrouver dans un instant avec Pierre Denis, on va parler de Demain nous appartient et de l'intrigue d'été qui nous attend. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va mettre un des personnages de Demain nous appartient à l'honneur. Il incarne Renaud maintenant depuis de nombreux mois, voire nombreuses années, 5 ans maintenant. Pierre Denis est notre invité, un habitué. Tu viens une fois par an nous voir pour nous parler justement de Renaud et de tes projets. Bonjour Pierre.
Bonjour, je suis ravi d'être là comme chaque année. C'est très agréable de se retrouver entre amis comme ça, c'est bien.
Exactement. Et alors Pierre, ce qui va être encore plus agréable, c'est qu'on va te voir cet été. On va te voir enfin, on va voir Renaud un petit peu plus.
Oui, c'est-à-dire que mon fils, le docteur Chardot, joué par Axel Kiner, va quitter la série pour 6 mois. Il avait besoin de faire un break, donc pour expliquer son départ, ils ont construit une arche autour de son départ dans laquelle je vais être impliqué, et on va voir le docteur Chardot, on va voir le docteur Chardot et le docteur Dumas, oui, père et fils, on va les voir pas mal pendant tout l'été.
Ah, génial. Et puis c'est bien de pouvoir justement gagner en épaisseur, de faire vivre le personnage autrement qu'à l'hôpital aussi quand même.
Exactement, c'est une de nos revendications depuis des années, c'est de montrer des scènes de la vie privée avec ma compagne Luce Mouchel qui joue Marianne, ou avec mon fils, et on voulait un petit peu sortir de l'hôpital, et là ça va nous faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de scènes qui vont se passer dans un hara, parce qu'il va hériter d'un hara avec des chevaux, et donc il y a toute une intrigue policière autour de ce hara qui va se développer, et on a des scènes un petit peu à l'extérieur de l'hôpital, et ça fait du bien de quitter la blouse blanche. Oui.
Tu m'étonnes, Pierre. Alors il faut quand même comprendre qu'entre Renaud et Samuel, c'est quand même un couteau tiré. Le père et le fils se comprennent vraiment pas toujours, donc ça va pas forcément s'arranger cet été tout ça.
Alors, en effet, on a des rapports un petit peu conflictuels, on se comprend pas toujours, mais là, cette arche va nous éloigner, puis nous réunir à la fin. Et finalement, on va avoir de bonnes relations à nouveau, ouais.
Alors, tu confirmes quand même, c'est une belle fin pour Samuel, pour 6 mois, mais il reviendra dans la série, c'est pas une fin définitive?
Alors, a priori, il revient à partir de janvier-février de l'année prochaine. Maintenant, il y a toujours ce petit risque lorsqu'on quitte une série, que plein de choses se passent entre temps, que voilà, que le personnage soit oublié par les téléspectateurs. Mais enfin, comme Samuel est très aimé par la chaîne et par la production,
et par le public,
à mon avis, il reviendra autour de Noël. D'autant plus qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que avec la Coupe du Monde de foot au Qatar, nous n'allons pas être diffusés entre mi-novembre et mi-décembre.
Ah oui, d'accord. Donc il va y avoir un mois de coupure au niveau diffusion.
Exactement, il va y avoir un mois de coupure, donc ils vont s'arranger pour que le 15 novembre, dernier épisode avant la semaine de Noël, il y ait un cliff très puissant qui permette aux gens de se dire « Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on voit absolument la suite. »
Donc, ça sera qu'un mois plus tard.
Et ça sera qu'un mois plus tard, mais ils comptent sur ce cliff ultra puissant pour amener les gens un mois plus tard à revenir devant leur téléviseur.
Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train de dire, c'est que la Coupe du Monde est au Qatar, et que le fait qu'elle soit là-bas, il a été négocié qu'elle soit pas au mois de juin mais au mois de novembre à cause de la canicule là-bas au Qatar, et que du coup, comme il y a 2 heures de décalage, les matchs se retrouvent à 20h, donc avec les avant-matchs, ça va faire une prise d'antenne à 19h. Donc du coup, effectivement, c'est Demain nous appartient qui va sauter à la corde.
Exactement, mais bon, compte tenu de la fidélité des téléspectateurs, on a fêté la 5e année, donc là, je pense qu'on a une fidélité suffisante pour que les gens supportent un mois de coupure et reviennent nous voir.
On va retrouver Marianne quand même au cœur de cette intrigue cet été aussi.
Oui, on va retrouver Marianne.
Ses punchlines.
Un petit peu par ricochet, puisque je vais être dans un état un petit peu émotionnellement difficile, et je vais m'en confier à Marianne. Et il va y avoir, comme souvent dans cette série, des secrets qui vont être dévoilés, des histoires du passé qui remontent à la surface. Et Marianne va en être la témoin, et il va y avoir pas mal d'histoires entre elle, mon fils, et Victoire aussi, jouée par Solène Hébert.
Oui, évidemment. Je sais que vous êtes très attachés l'un à l'autre avec Axel. Pour le coup, il y a dû y avoir des scènes intenses que vous avez jouées. Est-ce qu'il y en a une qui ressort, là, qui te met un peu les poils quand tu y repenses?
Oui, il y a une scène particulièrement émouvante qu'on a jouée ensemble au Hara, lorsque on fait revivre des souvenirs du passé, mais je vais pas vous les dévoiler, parce que sinon ce serait dommage. Mais il y a toute une intrigue policière qui enfin arrive à son terme, et une fois qu'on a compris ce qui se passait, il y a une scène très émouvante entre le père et le fils, où là vraiment on comprend qu'ils se retrouvent.
Eh ben, j'espère bien en tout cas. Pierre, est-ce que ça t'a laissé un peu de temps, Demain nous appartient, pour faire d'autres choses quand même malgré tout cette année?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai une récurrence relativement limitée, puisque je ne suis à 7 que 5-6 jours par mois, donc ça me laisse le temps de jouer au théâtre, puisqu'à partir de depuis quelques années, les théâtres fonctionnent beaucoup du mercredi au dimanche, donc ça me laisse les lundis, mardis pour tourner à 7. Et par ailleurs, je viens de finir un téléfilm là au mois d'avril qui s'appelle L'Impasse, réalisé par Delphine Lemoine, un formidable téléfilm qui va passer en octobre-novembre à la télé, avec Andrea Ferréol, Gwendoline Amon et Thierry Neuvik.
France 2, je crois, non ?
c'est pour France 2 exactement. Et puis je suis aussi récurrent dans une scène de ménage depuis plusieurs mois, puisque je fais le père de Vinnie Dargo, qui est le plus jeune couple de la série, et je suis son père, donc j'apparais assez souvent dans scène de ménage, donc c'est bien, ça fait un petit mélange d'émotions, de tournage, de travaux différents, enfin c'est pas mal.
Oui, et puis d'explorer plusieurs facettes aussi, c'est ça qui est bien, de pouvoir montrer d'autres choses. Demain nous appartient, c'est le succès qu'on connaît aujourd'hui, même si ça a perdu un petit peu en nombre de téléspectateurs pour cette saison, certainement dû un peu à de nombreux départs. Aujourd'hui, on sent quand même que la volonté de vouloir refaire venir un peu des anciens, de refaire venir un peu, de revenir aux fondamentaux, c'est ce que tu ressens aussi?
Exactement. L'année dernière a été marquée par ce qu'ils appelaient le reboot, c'est-à-dire qu'ils voulaient absolument faire venir de nouveaux personnages, beaucoup de jeunes, et faire mourir de nombreux personnages historiques. Et ça, il semblerait que à partir des mois qui viennent, ils vont resserrer autour des familles historiques qui ont créé la série, dont je fais partie bien sûr, la famille Delcourt, la famille Daunier, et ils vont resserrer autour des personnages historiques pour rassembler le public, parce qu'ils se sont aperçus que ce fameux reboot n'a pas eu l'effet escompté et a plus perdu de téléspectateurs qu'il n'en a gagné. Et les gens, même dans la rue, les gens qu'on voit de tous les jours, nous disaient « Ah, on reconnaît plus la série, tous les gens s'en vont, tous les gens meurent, etc. » Donc ils ont envie vraiment de resserrer autour des familles historiques, et je crois que c'est une bonne chose en effet pour la série et pour la fidélité des téléspectateurs.
Oui, c'est nécessaire, effectivement. On va te retrouver donc tout l'été au cœur de cette intrigue qui va te lier avec Axel Kiener, avec Luce Mouchel et évidemment notre Solène Hébert, voilà, qu'on adore tous. Donc voilà, on vous embrasse tous très fort et puis on va vous suivre tout l'été, 19h10, c'est du lundi au vendredi, Demain nous appartient, c'est sur TF1. On te retrouve aussi donc dans Scène de ménage à 20h30 sur M6 de temps en temps, donc pas cet été puisque là ils partent en coupure, et puis après on te retrouvera dans l'impasse donc à la rentrée à l'automne. T'es bien occupé, merci Pierre.
Merci à vous, merci, au revoir.
J'ai pas mal de mes clients qui sont tombés malades après avoir mangé des huîtres. Il y en a même qui sont hospitalisés.
Les Delcourt Bertrand ont mis des dizaines de vies en danger. On démarre à peine, t'imagines la réputation?
Vous avez un suspect?
T'aurais bien aimé que ce soit moi.
On est à deux doigts de la faillite, vous battez?
On n'a pas le choix, on maintient l'inauguration.
Les huîtres de Jeanne sont de retour.
Bien sûr, bravo!
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le plaisir, eh bien, de recevoir une partie de l'équipe de Maison de Retraite, le film que vous pouvez voir maintenant en VOD et DVD. Thomas Gilou, le réalisateur, ainsi que Lou Gala et Ludovic Bertillot seront nos invités. Hector Langevin, à l'affiche de la série Demain nous appartient également, viendra nous parler de la descente aux enfers de Barthes dans la série et de comment il a vécu cette intrigue si passionnante aux côtés d'Alexandra Naoum dans la série. Et puis on parlera également d'ici tout commence à nouveau avec Terence Tell, le beau gosse de la série, sera notre invité exceptionnel pour évoquer également ses nombreux projets. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.